Cette semaine, nous poursuivons encore la contemplation d'un nouveau tableau de l'Apocalypse. Et j'en profite pour dire que c'est un mot difficile que je viens de dire. Contempler. Contempler, c'est quelque chose d'extrêmement passif. Et ça peut rebuter. Parce qu'on ne fait rien. On se laisse pénétrer par quelque chose qu'on ne comprend peut-être même pas, qui nous dépasse, qui n'a peut-être pas de goût pour nous, ou qui est, ouais, c'est ça, qui est insipide. Je dirais pas que ça a forcément mauvais goût, mais ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût, quoi. Et c'est possible. C'est ce que, on appelle dans la vie spirituelle sécher. Notamment, on appelle ça sécher. Vie spirituelle est sèche. Ah, bon. Alors, je me souviens d'un prédicateur qui nous avait dit un jour, quand vous avez des sécheresses, c'est qu'il y a quelque chose à sécher. Outre la phrase qui peut être un peu ludique pour certains esprits, néanmoins, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a réellement besoin de temps pour que quelque chose en nous sèche. Une anxiété, une inquiétude permanente, une inquiétude ontologique, etc. Bon, je reviens à mon sujet, mais je comprends que ça puisse être un peu révoltant. Quand on se dit, mais il est gentil lui, mais moi, contemplation, c'est jamais quoi. Voilà. Donc quand je dis contempler, je veux dire regarder. Il faudrait que je fasse un jour l'étymologie de contemplare, parce qu'il y a le mot temple dans contemplare, hein. Voilà, bon, bref, j'en reste là. En tout cas, on a ce nouveau tableau qui nous est présenté avec un certain nombre de mystères. Notamment, je vais en relever quelques-uns. Les 144 000, alors on se dit pourquoi pas 145, enfin bon bref. Donc 144 000, bon, c'est tout simplement 12 fois 12 fois 1000. Et il se trouve que 12 est un chiffre parfait dans l'Écriture sainte. Les 12 apôtres, etc. Enfin, 12 est un des chiffres parfaits. 8, c'est plutôt le chiffre de Dieu, la résurrection, l'accomplissement. 7, c'est le chiffre de la création. 7 jours, la création a été faite. Et 12, une plénitude. C'est une plénitude. Donc, ça veut exprimer non pas qu'il y aura 144 000 et non pas 139 999. Ça veut juste dire que ça va être une foule innombrable. Ça va être la plénitude de la foule. Et puis nous découvrons aussi un truc assez cocasse, c'est le nom écrit sur le front. Ceci pour montrer que les tatouages, c'est pas récent, hein. Même le bon Dieu y avait pensé. Donc on a le nom, on a un nom écrit sur le front, le nom de l'agneau et celui de son père. Saint-Esprit, tant pis pour lui. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Le Saint-Esprit, c'est pas incarné, hein. Le nom de l'agneau, ben oui, l'agneau, c'est Jésus. Et le nom de son Père, il y a une filiation évidente. Bon. Ensuite, ce qui fait que nous sommes debout, ce qui fait qu'ils sont debout et qu'ils chantent, ben c'est le souffle de l'Esprit. Donc on retrouve de toute manière la Trinité. Mais c'est vrai qu'il y a un seul nom. Vous remarquerez qu'il n'y a pas écrit les noms de l'agneau et de son père. Il y a le nom de l'agneau et celui de son père. Autrement dit, c'est le même nom. Voilà, c'est le T. C'est le T sur lequel, duquel sont marqués au front tous ceux qui doivent. Tous ceux qui doivent être préservés de la grande persécution dont parle Ézéchiel. Bon, faudrait aller voir Ézéchiel, hein. Tu les marqueras d'un tau. Le tau, c'est le T sur le front. C'est aussi le symbole de la croix, puisque vous savez peut-être que la croix, c'était un tau, en fait. La barre du dessus que nous représentons, verticale, est en fait le INRI, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, qui a été ajouté ultérieurement. Mais c'est un T. C'est un T, la croix. Donc voilà, ceux qui sont marqués du signe de la croix, finalement, c'est ce qu'on pourrait expliciter. Alors c'est intéressant ce tatouage, je vais y revenir. Et puis il y a un champ. Alors le champ, vous avez remarqué qu'il est perçu de deux manières. C'est à la fois la voix des océans, ou un coup de tonnerre, et c'est à la fois des musiciens qui chantent en jouant de la sitar. Bon, c'est tout à fait intéressant. Parce qu'en fait, c'est le même chant. J'essaie de retrouver comme celle de joueurs de sitar qui chantent et qui s'accompagnent sur leur sitar. Voilà, la version actuelle dit ça. Et c'est tout à fait intéressant de voir ça, parce que ça veut dire qu'au fond, il y a, comme vous l'avez remarqué, nous ne percevons pas les louanges célestes. Les seuls à qui ce soit arrivé, ce sont les bergers, au moment de Noël, qui ont entendu une troupe céleste qui entonnait un cantique Gloria. Donc quand on chante le Gloria, c'est un cantique céleste. En parole, en musique, ben voilà, le problème c'est que nous on a notre musique créée. Et qu'au ciel, quelle musique ce sera. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien que nous avons là deux états, je veux dire deux états de vie, mais une vie terrestre et une vie céleste, quoi. Et il y a un rapport qui n'est pas toujours le même. Donc, qui n'est pas du tout le même, je veux dire. Mais enfin, ce sont les mêmes personnes qui sont passées de l'autre côté. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a un mystère, et c'est pour ça que ça nous est représenté sous forme de songe. Jean a ce songe de l'Apocalypse, pour à la fois y accéder en image et à la fois ne pas pouvoir y accéder. Et je crois que là, il y a aussi une image de la vie spirituelle où nous pouvons désirer quelque chose et nous apercevoir qu'on ne peut pas y accéder. Parce que ça doit nous être donné. Ça nous sera donné quand? Au bon moment. C'est quand le bon moment? Quand tu le recevras. Bon, d'accord. Mais voilà. Il faut demander, prier sans cesse, dit le Seigneur. Quand nous pourrons le recevoir, nous le recevrons. Mais si nous ne le demandons pas, nous n'en aurons pas le goût. Et nous ne saurons pas le reconnaître. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visite, dit Jésus devant Jérusalem, quand il se met à pleurer. C'était dans un évangile la semaine dernière. Voilà, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite, parce que tu t'étais pas enquis de demander cette visite. Et puis, je voudrais revenir aussi sur ce... Justement, cette image à la fois de perfection et à la fois de ces deux champs dont je parle, dont parle l'Apocalypse, comme pour une tapisserie. C'est une assez belle image de la vie céleste, la tapisserie. Les gens qui font des tapisseries savent très bien qu'on fait une tapisserie à l'envers. Et quand vous regardez une tapisserie à l'envers, c'est pas exactement la même chose qu'à l'endroit. Eh bien, nous tapissons à l'envers. On voit le dessous. Et on voit pas le dessus. Le dessus, on le verra au ciel. Il me semble que ça nous parle aussi de la vie spirituelle. Parce que contempler une tapisserie du dessous, franchement, c'est pas très kiffant. Ouais, sauf que pour l'instant... On est dans la foi, précisément. Donc, on ne contemple pas la tapisserie du dessous. L'agent, il lui est donné de la contempler du dessus, en songe, avec des images, donc limitées, créées. Je voudrais encore intervenir sur ce passage, parce que vous ne le savez peut-être pas, parce qu'il faut aller regarder très précisément, mais il y a un bout de verset qui a sauté. C'est 1-3, et puis ensuite on passe de 3 à 4b. Et pourquoi on n'a pas le 4A? Et bien parce que dans le 4A, il y a écrit une chose qui était compliquée, ça les a gênés de la mettre. ceux-ci sont ceux qui, avec des femmes, ne pas se sont souillés. Vierges, en effet, ils sont. Voilà, alors ça c'était un peu embêtant. Et je pense qu'il ne faut pas omettre ce passage-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne peut pas signifier le premier sens auquel on pense. Pour la raison suivante, c'est que Dieu a voulu que l'homme et la femme s'unissent pour perpétrer l'espèce humaine. Donc ça ne peut pas vouloir dire ce qu'on penserait au début. Voilà. Ce n'est pas un paradis islamique où il n'y a que des hommes, apparemment, hein. Sauf qu'eux, ils sont vierges quand même. Dans l'islam, c'est pas tout à fait ça, hein. Mais ça ne peut pas vouloir dire ça. Et du reste, il n'y a pas écrit que ce sont des hommes. Il y a écrit ceux-ci. Voilà, ceux-ci, c'est un pluriel masculin. Bon, dans la grammaire française, masculin l'emporte sur les féminins. Désolé pour les féminisants ou que sais-je. C'est les règles de grammaire, pour le moment en tout cas. Et donc ça ne peut pas vouloir dire ce qu'on pense. Donc c'est mystérieux. Alors moi je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que l'impureté, la souillure, elle ne doit certainement pas être réduite à une impureté physique, voire sexuelle. Jean Cassien dit que le but de la vie monastique, c'est la pureté du cœur. Bon, vous comprenez que, a priori, les moines, ils sont en retrait, d'autant plus les ermites, par exemple, et donc ce type de tentation, ils ne vont pas l'avoir en visuel, à supposer qu'il l'est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la garde du cœur, ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous laissons entrer dans notre cœur, c'est ça l'impureté. Toutes les mauvaises choses que nous laissons entrer dans notre cœur. Jésus le dit dans l'Évangile quand il dit « C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvais propos, l'adultère, machin, truc, bille, chose, etc. » Donc je crois que là, c'est la souillure dont il est question et que vous n'avez pas entendu dans la lecture. Eh bien, cette souillure, c'est l'impureté du cœur. Voilà. Ailleurs, Jésus dira, Moïse avait dit, ou l'Écriture dans l'Ancien Testament, circoncisez votre cœur et non pas votre prépuce. Je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est pas une question charnelle, c'est une question de cœur. Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton cœur? C'est ça qui va t'abîmer. Voilà, je voulais évoquer ce passage. Et puis la perfection, on nous dit qu'ils sont parfaits ces gens-là. Alors, on est bien content pour eux, mais enfin nous on n'est pas tellement concernés apparemment. Eh bien si, nous sommes concernés, parce que qu'est-ce qu'on a entendu sur ces gens? On a entendu ceci, ceux qui ont été rachetés. Nous avons tous été rachetés. Pourquoi ils se sont fait tamponner le front? Parce qu'ils ont été rachetés. Tout ça, c'est passif. Alors, il y a une part de nous-mêmes qui consent à ce rachat. La petite Thérèse dit que le mérite, ça consiste à accepter, à recevoir. C'est hallucinant, hein, quand même. Faut quand même l'entendre, ça. Voilà ce que dit la petite Thérèse. Quand même un docteur de l'Église, entre parenthèses. Donc ça veut dire que tout est fait par Dieu. Et que cette perfection, on aurait envie de se dire, bah mon vieux, c'est foutu pour moi, quoi. C'est trop tard, hein. Ben non, parce que ça a déjà été fait. Cette perfection, elle a déjà été acquise par le Seigneur. Dieu seul suffit, dit Thérèse d'Avila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je ne suis pas patient, mais Dieu c'est ma patience. Alors vous dites, ben oui, mais alors je fais quoi? Tu consens à ce que Dieu soit ta patience. Et vous allez vous rendre compte, si vous ne le savez pas déjà, que de patienter, quand on n'en a pas, et qu'on se dit, ben c'est encore l'autre qui paie parce qu'il est venu pour ça, ça creuse, hein. Ça creuse. Et on se dit, mais alors, je suis quoi? Eh bien, ça nous amène à l'Évangile, vous allez voir, c'est admirable. La veuve, elle a tout donné. Précisément. Elle a tout donné. Elle a consenti à dire, je veux tout recevoir. Absolument tout. Je garde aucune sécurité. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on le fasse demain matin, en donnant notre argent. Ça veut dire que c'est une attitude spirituelle qui est absolue et qui est complètement folle. elle est cinglée, cette vieille femme. C'est ce qu'on appelle les folles en Christ, quoi. Elle est folle de Dieu. On pourrait faire un jeu de mots en lisant l'écriture et en disant elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle voulait vivre, en vérité. Alors elle a tout donné. Ce n'est pas le sens, hein. Je reconnais que ce n'est pas le sens grec. Hein. En grec, il n'y a pas écrit ça. Hein. En grec, il y a écrit quelque chose d'un peu différent. Il y a écrit tout le moyen de vivre qu'elle avait. Voilà, donc c'est vraiment, elle n'a plus aucune sécurité. Mais je pense qu'on peut aussi interpréter la chose en disant, pour, au moins spirituellement, si vous voulez, pour se dire, voilà, pour vivre, elle a tout donné. Tant qu'elle n'a pas tout donné, elle ne vit pas, elle survit. Bon, c'est mon interprétation, hein, je ne prétends pas qu'elle soit juste. C'est une interprétation, il y en a combien? Bon. Voilà, je voudrais dire ça, parce que ça me paraît important. Et je trouve que ça illustre encore une fois, merveilleusement, la première lecture, où, en fait, ben, c'est parfait du ciel, ils l'ont pas, ils sont pas nés parfaits. Ils ont peut-être même eu des vies de patachons. Regardez Charles de Foucault. Et tant d'autres qui ont des vies de patachons. Et qu'on a canonisé. C'est quoi ce bazar? Mais c'est que la perfection, elle leur a été donnée, c'est pas la leur. La petite Thérèse dit « J'arriverai au ciel les mains vides. » Et vu ce qu'elle est en train de faire au ciel, à mon avis, elle doit tenir quand même deux ou trois fils. Hein. Parce qu'elle les reçoit du Seigneur. Bon, que ça nous serve un peu à méditer cette question de tout donner pour vivre, enfin. Et d'entrer dans cette insouciance qui n'est pas idiote, qui est, mais pourquoi voulez-vous que je me soucie de quelque chose alors que je peux même pas rendre un cheveu blanc ou noir? Pourquoi je me soucierais de quelque chose alors que le Seigneur a gagné pour moi, à ma place, c'est fait. Mais alors il faut que je fasse quoi? Que j'y consente et que je le reçoive. C'est trop facile. Eh ben, commence tout de suite, tu vas voir comment c'est facile. Parce qu'il y a notre orgueil qui est là, en disant, oui, mais quand même, je peux peut-être faire quelque chose. Ben, c'est pas sûr. Hein. Ah bon, mais alors on me demande de faire quelque chose. Ouais, on te demande de recevoir. Et c'est difficile, il faut toute une vie pour apprendre à recevoir. Eh bien, recevons.